France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les otages libérés, Donald Trump acclamé, la guerre à Gaza peut être terminée. Le Proche-Orient a vécu aujourd'hui une journée historique. Le Hamas a relâché les 20 derniers otages israéliens. Israël a de son côté remis en liberté près de 2000 prisonniers palestiniens. Dans un instant, nous retrouverons Thibault Lefèvre à Jérusalem et Marie-Pierre Véraud à Ramallah. En France, Sébastien Lecornu appelle son nouveau gouvernement à surpasser la crise politique. Exercice délicat alors que deux motions de censure menacent déjà le nouveau Premier ministre. À droite, l'état-major des Républicains envisage d'exclure les six ministres LR. Un Français prix Nobel d'économie, Philippe Aghion, a été récompensé pour ses travaux sur la croissance et l'innovation. Il n'y a plus d'otages israéliens à Gaza. Le Hamas a libéré aujourd'hui les 20 derniers captifs encore vivants, conformément au plan Trump, le président américain, qui est désormais le héros de tout un peuple, l'homme qui a permis la fin d'un long cauchemar, 2 ans après les massacres du 7 octobre et l'enlèvement de quelques 250 personnes. Et c'est un Donald Trump triomphant qui a pris la parole devant la Knesset, le Parlement israélien. On retrouve à Jérusalem notre correspondant Thibault Lefèvre. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Thibault, vous avez suivi le discours du président américain, ovationné par les députés israéliens.
Alors Donald Trump a pris son temps, il a parlé un peu plus d'une heure, laissé traîner les applaudissements, ponctué son discours de quelques pics, souvent sur le ton de la blague.
Ce n'est pas le gars avec lequel il est le plus facile de négocier.
Ici, à propos de Benjamin Netanyahou, qu'il a aussi défendu pour demander au président israélien Isaac Herzog de gracier le Premier ministre accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans 3 affaires.
Pourquoi ne lui accordez-vous pas une grâce? Des cigares et du champagne, qui s'en soucie?
Une ingérence de Washington dans les affaires intérieures israéliennes qui ne surprend plus personne ici, tellement Donald Trump a contraint par la menace Benjamin Netanyahou de valider la première phase de son plan de paix.
Il est temps maintenant de transformer cette victoire contre le terrorisme sur le champ de bataille en paix, en prospérité pour tout le Moyen-Orient.
Le discours a été brièvement interrompu quand 2 députés communistes ont brandi des pancartes défendant la création d'un État palestinien avant d'être violemment expulsés. Ce qui n'a pas empêché Donald Trump, derrière cette prise de parole totalement décousue, de faire passer un message très clair: la guerre est finie et Gaza ne sera pas annexée.
Voilà pour ce reportage de Thibault Lefèvre à Jérusalem. Sur les 48 otages que détenait encore le Hamas, 28 sont morts. La milice islamiste doit remettre aujourd'hui 4 dépouilles à la Croix-Rouge. 2 premiers corps d'otages viennent d'être remis, annonce la télévision publique israélienne. Conformément au plan Trump, Israël a libéré de son côté dans la journée 1968 prisonniers palestiniens. 100 au total avaient été autorisés à rentrer en Cisjordanie occupée. Mais au dernier moment, la liste a changé. L'armée israélienne a mis son veto sur certains noms et ce sont 88 détenus qui ont pu retrouver leur famille, les autres devant être expulsés à Gaza ou à l'étranger. Marie-Pierre Véraud et Gilles Gallinaro ont assisté à leur arrivée au musée Mahmoud Darwish, le lieu choisi pour les accueillir dans le centre de Ramallah.
Ils sont arrivés dans 2 bus blancs de la Croix-Rouge dans une cohue indescriptible, des cris de joie, des Allahu Akbar, des sifflets, des applaudissements. Les prisonniers descendent un par un, certains pleurent, d'autres sourient, plusieurs ont le visage émacié, la plupart portent un keffieh autour du cou. Ils sont ensuite conduits à l'intérieur du centre culturel de Ramallah où leur mère, leur sœur, leur père, leur frère les attendent, les yeux embués de larmes. Une jeune femme en robe traditionnelle palestinienne embrasse son frère. C'est un sentiment indescriptible, dit-elle, en mélange de douleur, de tristesse et de joie immense. Je ne peux pas vous décrire mes sentiments. Après plus de 24 ans, la vie revient, le soleil s'est levé de nouveau. Le plus important maintenant, c'est sa santé. Nous voulons qu'il se marie et puis nous voulons voir ses enfants. L'un des prisonniers a en effet perdu connaissance tant l'émotion est forte, mais un autre tient à parler aux caméras pour s'indigner de l'interdiction faite par l'armée israélienne de toute célébration. Ils ont tout fait, dit-il, pour nous enlever notre joie, mais nous sommes libres et avec nos familles. Ils sont à présent tous rentrés chez eux, 88, alors que les Palestiniens en attendaient 100, mais des noms ont été barrés de la liste ce matin. Plusieurs familles sont donc reparties toutes seules.
Marie-Pierre Vérot et Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux en Cisjordanie. Après Jérusalem, Donald Trump est arrivé tout à l'heure à Sharm el-Sheikh en Égypte pour coprésider un sommet international sur l'avenir de Gaza. Sommet auquel participent plusieurs dirigeants européens comme Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Quelques heures après sa nomination, le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu s'installe. Avant un premier conseil des ministres demain matin, les membres de l'équipe avaient rendez-vous à Matignon cet après-midi. Une première réunion de travail pour cet attelage composite. D'un côté, des politiques chevronnées comme Gérald Darmanin à la justice. De l'autre, des profils plus techniques comme l'ancien PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, nouveau ministre du Travail. Sébastien Lecornu a pris la parole pour introduire cette réunion. L'occasion pour le Premier ministre de faire passer un message.
Notre seul objectif et seule mission est évidemment de surpasser cette crise politique qui sidère une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et je pense que le meilleur moyen d'y arriver, au fond, c'est d'avoir une éthique collective personnelle, personnelle dans le collectif, qui soit parfaite. Et donc évidemment, moi je compte sur vous pour faire preuve de la plus grande des sobriétés, de la plus grande des humilités. Le service est quelque chose justement qui nécessite de mettre les égos de côté. Et donc liberté, humilité, et le dernier mot, ça sera bien sûr exemplarité. Au moment où on va devoir faire des économies, on va devoir être exigeant sur la tenue de déficit public. Il est clair qu'on ne peut pas dire qu'on veut réformer l'État si les femmes et les hommes qui sont à la tête de cet État, évidemment, ne tiennent pas une exemplarité importante dans la manière de dépenser l'argent du contribuable. Et donc, beaucoup de choses ont déjà été faites en matière de train de vie pour les ministres, les cabinets ministériels. J'aurai un certain nombre d'efforts encore à vous demander sur ces sujets, mais vous l'avez accepté en rentrant dans ce gouvernement, car par définition, c'est un gouvernement qui sera là pour tenir aussi les cordons de la bourse avec discernement et justice.
Voilà donc un appel à l'humilité et à la sobriété lancé à cette équipe nommée par communiqué tard hier soir et dont le capitaine Sébastien Lecornu ne veut montrer qu'une seule image, celle d'un gouvernement au travail, Rosalie Lafarge.
Avec 34 personnes autour de la table, le gouvernement de Sébastien Lecornu n'est pas l'équipe resserrée annoncée. Alors à l'heure de demander des efforts aux Français, les ministres sont donc priés de donner l'exemple, on vient de l'entendre. Sobriété budgétaire, sobriété médiatique aussi un peu plus tôt. Dès hier soir en réalité, après l'annonce de leur nomination à 22h, on leur demandait aussi à ces ministres de rompre avec les traditionnelles passations de pouvoir. Cette fois, pas de presse, pas de discours, pas d'invitations extérieures à réclamer Matignon.
On est au niveau de l'impérieuse nécessité si on ne veut pas perdre la bataille de l'opinion publique.
Le spécialiste de la communication politique, Arnaud Mercier, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas.
Il y a de fait une obligation de modestie quant à la situation politique. Le Premier ministre l'a répété sur tous les tons. La seule priorité actuelle du gouvernement, c'est simplement d'établir un budget. Donc, en effet, il n'y a pas de raison de faire des grandes cérémonies pour faire un bilan de l'action, puisque c'est des gouvernements éphémères. Et puis pour se projeter dans des grandes envolées lyriques sur ce qu'on va faire, puisque tout le monde a compris que l'avenir est incertain et que déjà faire un budget, c'est déjà formidable.
Le conseiller d'un ministre sortant y a vu aussi une façon d'éviter sans doute des discours aux allures de règlement de compte. Et il y en a un qui s'est d'ailleurs affranchi de la consigne. Bruno Retailleau a convié des journalistes pour immortaliser ses adieux à Beauvau à la mi-journée. « Je ne pouvais pas partir comme un voleur », a expliqué le patron des LR, critiquant tour à tour la confusion du moment ou l'ingratitude d'une partie du monde politique.
Bruno Retailleau qui souhaitait qu'aucun ministre LR ne participe à ce gouvernement, conformément au vote du bureau politique du parti samedi. Peine perdue puisqu'ils sont 6 à avoir bravé cette interdiction, comme Vincent Jeanbrun au logement, Annie Genevard qui reste à l'agriculture, tout comme Rachida Dati, toujours ministre de la Culture. Nicolas Balu, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno Retailleau et l'état-major des Républicains veulent sanctionner les 6 ministres réfractaires qui risquent désormais une exclusion de leur parti.
Oui, la nécessité de rétablir l'ordre. Cette allusion de Bruno Retailleau en parlant de Beauvau faisait référence à la France. Elle s'applique aussi à son parti. Son chef, pourtant largement élu à la tête des Républicains, traverse aujourd'hui une crise d'autorité. Hier soir, en réagissant immédiatement après l'annonce de la composition du gouvernement, Bruno Retailleau avait tenté de l'imposer. Les ministres en question ne pouvaient plus parler au nom de LR. Leur exclusion définitive serait tranchée lors d'un bureau politique. Il aura lieu dans les prochains jours. Par ailleurs, une consultation des adhérents sur le soutien sans participation qu'avaient décidé les instances du parti est censée valider la décision de ces instances. Mais elle n'empêche pas la fracture du parti. Aujourd'hui, les députés, parfois désignés comme des auto-entrepreneurs qui considèrent qu'ils ne doivent pas grand-chose au parti dans leur élection en 2024, eh bien, ces députés sont majoritairement opposés à la ligne Retailleau et le reste. La dissolution est un épouvantail. Ne pas soutenir le gouvernement saurait se condamner. Le soutenir serait se renier, pense en revanche Bruno Retailleau et nombre de sénateurs. Un combat qui en cache à peine un autre, celui de l'ancien ministre de l'Intérieur, face à son concurrent Laurent Wauquiez, patron du groupe des députés LR à l'Assemblée et accusé de laisser ses troupes monter au créneau. Stratégie parlementaire, stratégie présidentielle et analyse sont divergentes. Ajoutez que Bruno Retailleau est accusé d'avoir profondément écorné l'image du LR dans l'opinion et déstabilisé un parti prompt à se déchirer. Le tout devant le RN dont le parti subit de plus en plus l'air d'attraction et la petite musique de l'union des droites qui se fait un peu plus forte à mesure que LR s'affaiblit.
Nicolas Ballu, merci. C'est demain après-midi à 15h que Sébastien Lecornu prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée. Le Premier ministre qui devra ensuite affronter deux motions de censure déposées par le Rassemblement National et la France Insoumise. Elles devraient être examinées mercredi ou jeudi. L'attitude des socialistes sera déterminante. Le PS réclame à Sébastien Lecornu la suspension de la réforme des retraites, faute de quoi il votera la censure. Nicolas Sarkozy connaît désormais les modalités de son incarcération après sa condamnation à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. L'ancien président qui a été convoqué cet après-midi dit par le parquet national financier. Le 25 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait délivré à son encontre un mandat de dépôt à effet différé. Rappelons que Nicolas Sarkozy a été condamné pour avoir laissé ses collaborateurs démarcher la Libye de Muammar Kadhafi, et cela afin d'obtenir un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. Florence Turme, bonsoir.
Bonsoir.
Si l'ancien chef de l'État connaît la date de son entrée en prison, nous n'en savons rien, puisqu'à ce stade, les acteurs du dossier restent silencieux.
Ah oui, en tout cas, ils ont cherché à préserver le secret. Nicolas Sarkozy est arrivé au tribunal judiciaire de Paris vers 13h45, à bord d'une voiture aux vitres fumées. Dans les bureaux du parquet national financier, il a rempli une notice individuelle de détention, les éléments que l'administration pénitentiaire doit connaître, notamment sur son état de santé. Il est reparti trois quarts d'heure plus tard, sans faire aucune déclaration. Lui qui avait lancé à l'énoncé de son jugement. La haine n'a donc décidément aucune limite, mais je dormirai en prison la tête haute. Aucune communication non plus de la part du PNF, ni des avocats de l'ancien président de la République. Si l'on s'en tient au cadre procédural, son incarcération doit intervenir dans les 4 mois qui suivent sa condamnation, mais elle devrait se concrétiser plus tôt dans un délai relativement proche, avait indiqué une source judiciaire au moment du jugement, et à l'instant, l'agence de Radio France livre la date du 21 octobre. Quant aux modalités de cette incarcération, on sait que Nicolas Sarkozy bénéficiera d'une cellule individuelle. Il peut être placé soit à l'isolement, non pas pour des raisons disciplinaires, mais pour le protéger, soit dans un quartier pour personnes vulnérables, un QVP, comme il en existe 2 seulement en région parisienne, à La Santé ou à Fleury-Mérogis. Et c'est à La Santé qu'il devrait se présenter. C'est seulement une fois incarcéré qu'il pourra déposer une demande de remise en liberté. La justice aura alors 2 mois pour statuer, l'autre échéance restant bien sûr celle du procès en appel qui devrait avoir lieu dans les 6 mois à venir.
Florence Turme, merci. À l'instant, cette date qui est donc confirmée selon des sources proches du dossier. C'est donc le 21 octobre prochain que Nicolas Sarkozy devrait être incarcéré à la prison de la Santé à Paris. La France aura décroché 2 prix Nobel cette année. Après Michel Devoré pour la physique, Philippe Aguillon est récompensé en économie. Mais tout comme son collègue physicien, Philippe Aguillon partage son Nobel avec 2 autres chercheurs, le Canadien Peter Howitt et l'Américano-Israélien Joël Mokyr. La Banque centrale suédoise, qui décerne ce prix Nobel d'économie, a voulu distinguer cette année des travaux sur la croissance et l'innovation. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Aguillon croit au pouvoir de la destruction créatrice, c'est d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage, mais celui qui a conseillé Emmanuel Macron avant de s'en détourner, exhorte l'Europe à investir dans l'innovation et notamment, Marie, dans l'intelligence artificielle.
IA, notre ambition pour la France, c'est le titre du dernier livre de cet économiste né en 1956 à Paris, un ouvrage issu des travaux de la commission qu'il a coprésidé 7 mois durant, l'idée étant de livrer un plan d'action pour que l'IA soit un facteur de progrès. L'optimisme, c'est d'ailleurs l'un des traits de caractère de ce disciple de Schumpeter, volubile et passionné. Il était en direct ce midi avec les membres de la Banque de Suède quand ils ont annoncé le prix. Écoutez sa réponse à la question d'un journaliste sur l'innovation en Europe.
La recherche fondamentale en Europe est fantastique. Beaucoup d'innovations de rupture citent des travaux européens, mais la recherche européenne ne débouche pas sur des innovations technologiques majeures. C'est un problème à régler, mais notre potentiel est énorme. La démocratie, la liberté, la préoccupation pour l'environnement, l'attachement au social et à la croissance inclusive, tout ça est en Europe.
Aujourd'hui, professeur au Collège de France, Philippe Aguillon est passé par les mathématiques et l'école normale sup avant de s'orienter vers l'économie. De 1960 à 1984, il a eu sa carte au Parti communiste, courant dont son père était proche. Mais il ne croit plus au grand soir. On ne peut plus dépasser le capitalisme, mais on peut le réguler, dira-t-il récemment. C'est cette approche qu'il promeut aussi pour l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle représente un potentiel de croissance, mais nous savons que sans régulation appropriée de la concurrence, il peut se passer la même chose que pour le numérique et que des entreprises superstars dominent et limitent l'émergence de nouveaux acteurs innovants.
Enfin, d'accord sur le principe de taxer les plus fortunés, Philippe Aguillon a récemment pris position contre la taxe Zuckmann, dont il considère qu'elle pourrait faire fuir les innovateurs.
Marie Viennot, chef du service économie de France Culture. Le dossier de ce journal est consacré aux difficultés croissantes de la filière automobile. Nouvelle illustration aujourd'hui, le site Stellantis de Poissy dans les Yvelines entame 3 semaines de chômage technique pour faire face à la baisse des ventes dans le monde. Les constructeurs et les équipementiers doivent accélérer le passage à l'électrique qui sera obligatoire en Europe pour les voitures neuves en 2035. Mais pour l'instant, ce marché plafonne à 17% dans toute l'Union européenne. En attendant, la filière multiplie les plans sociaux comme le sous-traitant Bosch qui va supprimer 13 000 postes en Allemagne. En France, l'équipementier allemand prévoit le départ de 750 salariés de son usine emblématique de Rodez dans l'Aveyron. C'est un reportage d'Hakim Kasmi.
Ici, sur le site Bosch de Rodez, on produit uniquement des pièces pour les véhicules diesel, que ce soit des voitures ou des camions, comme des bougies qui sont exportées chez les constructeurs dans le monde entier. L'usine en produit jusqu'à 16 millions par an, notamment pour Stellantis, qui détient les marques Peugeot et Citroën. Mais avec la chute du diesel, qui est passé en 10 ans, de 70 à 6% des ventes en France, les effectifs sont passés de 12 000 à 560. En effet, le dernier plan de départ à Bosch-Rodez, mis en place il y a 4 ans, prévoit jusqu'en 2028 la suppression de 750 emplois. Et face aux difficultés du marché automobile, qui a encore du mal à redécoller, 160 suppressions sont encore prévues à l'avenir. D'où la grande inquiétude des salariés, comme cet opérateur qui souhaite garder l'anonymat.
Je pense qu'on est la plupart des salariés très inquiets et on a peur de perdre notre emploi, surtout vu nos âges. 48-50, on est une majorité de salariés, je pense, entre 45 et 55 ans. Et c'est très difficile de retrouver un travail quand vous avez fait plus de 20-30 ans d'embauche.
On va reprendre l'ascenseur. Hop.
Une situation qui est également liée aux décisions politiques du gouvernement et de la Commission européenne, estime Mathieu Wellem, délégué CFE-CGC pour la France et l'Europe chez Bosch, qui regrette également la marche forcée vers le tout électrique pour réduire les émissions de CO2 d'ici 2035.
La raison aurait voulu qu'on mette le diesel avec une hybridation légère. Cela aurait permis de gagner, hein, puisque le diesel émet 20% de moins de CO2 par rapport à un moteur essence de même cylindrée. Aujourd'hui, la France réaugmente en émissions de CO2, hein, c'est dans tous les rapports, simplement par le fait que le marché de l'automobile est bougé d'un marché hautement diesel à un marché complètement essence.
En attendant, pour sauvegarder l'emploi sur le site et maintenir son activité, la direction planche avec les partenaires sociaux sur des pistes de reconversion. En effet, après avoir dû abandonner en 2021 le secteur de l'hydrogène, qui a du mal à décoller dans l'automobile, elle envisage désormais de se lancer dans la fabrication de capteurs, notamment pour les voitures électriques. Ce qui ne permettra pas pour autant de créer des postes, mais d'en maintenir au moins 350 après 2030, espère Stéphane Lechat, le directeur de l'usine, qui a accepté de répondre à nos questions.
Nous avons donc lancé un nouveau produit qui va arriver sur le site de Rodez, qui sont des capteurs d'arbres à cames qui vont permettre de comprendre la position du moteur, notamment des moteurs thermiques, mais aussi avec des solutions hybrides et qui peut avoir des applications pour les moteurs électriques. Donc ce produit-là va être débuté en début 2026 avec un premier transfert de ligne du site de Bleichard en Allemagne sur Rodez, suivi d'un investissement d'une deuxième ligne complètement automatisée neuve qui va arriver en 2027.
Enfin, pour tenter d'endiguer les dizaines de milliers de suppressions de postes à venir dans l'industrie automobile sur le vieux continent, la France et l'Allemagne poussent la Commission européenne à imposer aux constructeurs asiatiques et particulièrement chinois qui dominent le marché de la voiture électrique de produire une partie de leurs pièces comme les batteries en Europe, mais pas sûr que cela suffise à long terme.
Reportage à Rodez signé Hakim Kasmi. Le temps demain sera globalement ensoleillé grâce au maintien des conditions anticycloniques. Les brouillards seront nombreux matin sur la moitié nord et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures minimales iront de 4 à 15 degrés en général. Le thermomètre grimpe l'après-midi entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Alexandre Dong.